D'accord, merci Martine. Oui, je travaille en fait dans l'utilisation des technologies pour l'enseignement des mathématiques et l'enseignement des sciences. Mais je suis mathématicien effectivement et donc je me sens un petit peu mal à l'aise et un peu angoissé de vous parler ici. J'ai dû faire des choix. J'espère que les choix que j'ai réalisés vous permettront quand même de comprendre un petit peu le propos que je voudrais tenir. Je vais essayer de parler d'algorithmes de mathématiques et images. Donc tout de suite, pour commencer, il y a déjà une première image sur ma page que j'aime bien parce que elle est en quelque sorte symétrique. C'est-à-dire d'un côté, il y a un monde réel, un dinosaure, et puis il y a son image. Alors le dinosaure, vous le voyez peut-être mal, mais c'est l'ombre qui est ici. On voit un dinosaure. Et son image réciproque, c'est quelque chose d'abstrait, quelques cubes Lego qui vont essayer de représenter abstraitement cet objet de la réalité. Et c'est un petit peu le travail qu'on fait, nous, en mathématiques, c'est-à-dire partir d'objets de la réalité, essayer de les épurer, de les abstraire au maximum et d'essayer de travailler sur les abstractions. Et puis si on regarde de l'autre côté, on a au départ un objet réel et puis qui se projette dans un plan de la réalité. Et c'est peut-être en tout cas un peu comme ça que moi je vois la création artistique, hein, arriver à créer à partir d'objets réels un monde imaginaire. Donc dans le titre il y a image, donc je commence par cette image là qui est effectivement quelque chose qui pour moi est complètement passionnante et intéressante, parce que cette image est une image de mathématiques, c'est un bout d'un ensemble mathématique qui s'appelle l'ensemble de Mandelbrot et qui a une histoire excessivement intéressante, puisque elle est liée à des systèmes dynamiques, donc des choses qui ont été étudiées à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle par des mathématiciens comme Poincaré ou comme Julia, mais qui finalement c'était un petit peu perdu dans les limbes des mathématiques, jusqu'à ce que les algorithmes qui permettent de faire les représentations de ces ensembles excessivement complexes puissent être implémentés sur des machines et qu'on puisse avoir des images, des représentations visuelles de ces ensembles. Et donc le mathématicien qui a trouvé ça, Mandelbrot, c'est lui qui est à l'origine du terme fractal, la géométrie fractale, et ce mathématicien a fait ça à partir d'images sur ordinateur, alors que les systèmes dynamiques étaient fortement connus depuis longtemps et sont d'une extrême simplicité, puisque finalement ce que vous avez vu comme image juste avant, cette image là, elle vient simplement de cette équation, enfin de cette représentation là de la dynamique de cette transformation qui est finalement juste élevée au carré et puis ajouter un nombre. Donc c'est vraiment quelque chose. Alors je rentre pas dans les détails parce que là je triche un petit peu, parce que élevée au carré, c'est-à-dire faire une multiplication et puis rajouter un nombre, on a l'impression que c'est évidemment quelque chose de complètement élémentaire, sauf qu'en l'occurrence ici, les nombres qui sont en jeu sont des nombres complexes, c'est-à-dire des représentations du plan. Et ça veut donc dire qu'on va travailler sur les points du plan comme si on les considérait comme des nombres, et puis qu'ensuite on les fait jouer dans un système dynamique et on obtient des représentations comme celles que je vous ai montrées. Alors le plan de mon propos, je vais parler d'algorithmique et de mathématiques et essayer de voir un peu la relation étroite et parfois conflictuelle qui peut exister entre les mathématiques et l'algorithmique. Et puis ensuite j'essaierai d'aborder algorithmique et images en prenant image, dans le titre j'ai pas mis de S parce que c'était une image générique, et puis ici je mets un S parce que je vous voyais un peu sur la polysémie du terme image, à la fois des images qui sont des représentations d'objets mathématiques qu'on va étudier, mais à la fois aussi des images des mathématiques elles-mêmes. Et puis je terminerai sur simplement la notion d'algorithme en essayant. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, j'ai fait des choix donc de montrer un petit peu ce que peuvent être des algorithmes en maths. Alors, là on n'y voit pas grand chose, mais il y a correction. Il y a trois termes, il y a correction, terminaison et complexité. Alors ces trois termes Trois termes complètement fondamentaux en algorithmique mathématique, c'est-à-dire qu'il faut que les algorithmes qu'on utilise soient corrects, c'est-à-dire que ce qu'ils sont censés faire, eh bien, ils le fassent effectivement. Donc c'est la correction des algorithmes. Il faut qu'il se termine, c'est-à-dire un algorithme qui ne se termine pas, bien il ne va pas permettre d'obtenir les résultats qu'on souhaite qu'il obtienne. Donc c'est le problème de la terminaison des algorithmes. Et puis enfin, un autre problème qui est excessivement important en algorithmique, c'est la complexité, c'est-à-dire qu'il y a des algorithmes, on connaît pour certains problèmes des algorithmes, mais on sait que si on les faisait tourner, on obtiendrait la réponse dans un temps qui est à peu près équivalent au temps de vie de l'univers, donc ça a un intérêt assez limité d'avoir de tels algorithmes. Et donc le problème de la complexité est de ramener de plus en plus d'un algorithme à un algorithme plus rapide qui permet d'obtenir le même résultat, c'est évidemment un travail important. Alors, je vais prendre trois exemples pour vous montrer un petit peu de quoi il s'agit au niveau mathématique, en termes de terminaison, de complexité et de correction. Alors, j'ai pris des exemples. Alors, le premier exemple qui est un exemple à la fois historique et excessivement moderne, c'est le problème des fractions, des problèmes de fractions égyptiennes. Alors on a ici la représentation hiéroglyphique des nombres 1 demi, 1 quart, 1 huitième, donc les inverses des puissances de 2 qui étaient représentées dans l'arithmétique égyptienne par cet œil, c'est l'œil d'Horus. Donc en fait, c'était essentiellement utilisé pour des mesures de capacité en Égypte ancienne. L'histoire de l'œil d'Horus est intéressante à la fois d'un point de vue historique et anecdotique et d'un point de vue mathématique. Alors historiquement, dans la mythologie, Horus a eu son œil arraché dans une bataille avec Seth, et le dieu Thoth, dieu de l'arithmétique, lui a reconstitué son œil, et donc il lui a reconstitué son œil en prenant la moitié de l'œil, puis le quart de l'œil, etc. Et si on fait la somme mathématique de toutes ces fractions, on obtient 63 64e, c'est-à-dire c'est pas l'unité entière, donc il manque un 64e. Et la mythologie dit que c'est Thoth qui, par-delà tous les calculs que les scribes pourront faire, rajoutera à chaque fois ce 64e manquant. Alors, pourquoi c'est très ancien, c'est très anecdotique et c'est très rigolo, mais c'est aussi très moderne. Parce que on se pose des questions à partir de ça et de ces nombres, et en particulier un des premiers problèmes qu'on se pose, c'est la décomposition des nombres rationnels. Bon, j'ai pris un exemple ici, 2/3 par exemple, comme somme de fractions égyptiennes. Alors fractions égyptiennes, on généralise les fractions égyptiennes comme étant des fractions dont le numérateur, donc ce qui est en haut au-dessus de la barre de fractions, est un 1. Alors par exemple, 2/3 c'est 1/2 plus 1/6, donc on arrive à faire ce résultat. Et la question qui se pose, c'est si on prend une fraction quelconque, plus petite que 1, alors après pour plus grand que 1, on a d'autres techniques et d'autres algorithmes qui sont mis en jeu, mais j'en parlerai pas ici. La question qui se pose, c'est de savoir est-ce qu'il est possible de le décomposer en somme de fractions égyptiennes. C'est-à-dire, si je prends n'importe quelle fraction, est-ce que je peux dire que c'est 1 sur quelque chose, plus 1 sur autre chose, plus 1 sur autre chose, sans limiter le nombre de termes. Ça, c'est un problème qui est intéressant et la solution est au tableau. Alors, tout à l'heure, je vous ai montré un dessin très compliqué avec une formule qui était excessivement simple, et bien là c'est le contraire, c'est une formule qui semble excessivement compliquée pour une réalité qui est excessivement simple. C'est l'autre aspect, et c'est un aspect qui est excessivement algorithmique. Et c'est là où on commence à avoir le rapport qui peut exister entre les mathématiques et l'algorithmique. Puisque ici apparemment j'ai une formule algébrique avec des symboles qui sont utilisés en algèbre et en arithmétique, mais en fait, fondamentalement derrière, il y a un algorithme. Et l'algorithme, c'est un algorithme qui est dit glouton. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un algorithme glouton ? Ben, ça veut dire que si je veux atteindre une fraction que je peux représenter par un segment qui est comme ça, eh bien, je vais commencer par prendre la plus grande fraction égyptienne qui rentre dedans. La plus grande fraction égyptienne qui rentre dedans, c'est calculé même exactement par cette formule. Et puis il va y avoir un reste, où il n'y a pas de reste, et j'ai terminé, c'était déjà une fraction égyptienne au départ, où il y a un reste, et alors je recommence exactement la même chose avec ce reste. D'accord? Donc j'ai un algorithme glouton, ça veut dire que ici, eh bien je prends la solution optimale à chaque étape. À chaque pas de mon algorithme, je vais prendre la solution optimale. Et alors, évidemment, je vous l'ai dit, ça marche ici. Mais la question, c'est évidemment pourquoi ça marche. C'est là où on est confronté à un problème de terminaison. Pourquoi est-ce que cet algorithme va effectivement se terminer ? Donc ça, c'est un problème qui est intéressant, et c'est un problème qui est... je ne vais pas rentrer dans les détails de la démonstration, mais elle est simplement fondée sur le fait que si on a une suite décroissante de nombres entiers positifs, ben forcément, à un moment, ça va s'arrêter à zéro. Donc ça, c'est un principe très simple de mathématiques. Si vous prenez des nombres qui sont de plus en plus petits, mais qui sont entiers et qui sont positifs, mais comme il y a le socle, il y a le seuil à zéro, vous avez beau prendre des intervalles pas plus grands que 1, il y a toujours un moment où vous allez arriver à zéro. Et donc c'est le principe de cette démonstration, et le principe de cette démonstration, elle tient dans le numérateur qui est ici, qui est donc toujours plus petit que la valeur de x. Donc on va fabriquer une suite décroissante qui va forcément s'arrêter. Et donc c'est un problème de terminaison. Et on peut donc, dans ces cas-là, écrire l'algorithme et se mettre à donner à une machine les ordres pour arriver à décomposer une fraction en fraction égyptienne, en somme de fractions égyptiennes. Donc premier problème de terminaison qui est illustré par cet exemple, les algorithmes, dans un algorithme glouton. Alors, j'ai parlé d'algorithme glouton, en même temps je dis deux mots par rapport à ça. Ça, c'est une technique algorithmique qui est très souvent utilisée, mais qui marche bien ici dans cet exemple, parce qu'on est capable de montrer que ça se termine et qu'on va arriver au bout, mais qui marche pas toujours. Par exemple, vous avez des exemples classiques d'algorithmes de chemins minimaux. Vous avez tous, à un moment donné, regardé sur Google ou sur Mappy comment faire pour aller de l'IFE jusqu'à la place Bellecour, et puis savoir quel est le chemin le plus court pour aller jusque là-bas. Mais comment c'est fait ? Alors, on peut utiliser un algorithme glouton. L'algorithme glouton, ce serait de dire, à chaque étape, chaque fois que je traverse une rue, je prends le chemin le plus court. D'accord ? Je prends le chemin le plus court, et puis j'arriverai à prendre le chemin le plus court d'ici jusqu'à la place Bellecour. Mais là, la réponse est fausse. Cet algorithme ne fonctionne pas, parce qu'on peut avoir par étape des chemins les plus courts, sauf que la dernière étape est infiniment longue, par exemple. Par exemple, il y a le Rhône entre les deux, et il faut aller rechercher un pont beaucoup plus loin. Alors qu'il y a d'autres algorithmes qui sont utilisés, et je vais pas développer ici pour donner, mais c'est des algorithmes très très modernes qui datent du siècle dernier quand même, mais qui ont été développés disons dans les années 70-80, à peu près 1970-1980, et qui permettent d'obtenir le chemin minimum sur un graphe, à l'intérieur d'un graphe. Bon, je veux pas aller plus loin sur ce problème. Ce qui m'intéresse ici, c'est cette relation, ce rapport qui existe entre les mathématiques et l'algorithmique. Dans les mathématiques, il y a une chose sur laquelle on travaille, et puis dont on a besoin, c'est l'infini. On travaille toujours avec l'infini. Et bien, d'un autre côté, les algorithmes, c'est des choses qui sont finies par nature. Surtout lorsqu'on les implémente dans une machine, une machine qui elle-même est finie en termes de nombre de molécules utilisées pour fabriquer cette machine. Donc on est un peu confronté à cette dualité entre les mathématiques qui travaillent avec l'infini, et puis les algorithmes qui travaillent de façon finie. Et donc ça, c'est le premier aspect de cette relation. Le deuxième aspect, c'est les aspects de de construction. C'est-à-dire qu'il existe en mathématiques des possibilités de parler de certains objets sans forcément les avoir créés ou les avoir vus ou les avoir mis en évidence. On peut utiliser des structures logiques qui permettent de démontrer des résultats d'une façon non constructive. Or, les algorithmes, eux, sont des procédés, des processus qui permettent, à partir d'un certain nombre d'entrées, d'obtenir à la sortie un résultat qui est un résultat constructif. Alors, si on regarde dans l'histoire, par exemple, dans l'histoire des mathématiques, on peut s'apercevoir par exemple que les mathématiques chinoises sont des mathématiques constructives, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette idée de démonstration comme on peut l'avoir en Occident, mais il y a plutôt les démonstrations sur voilà, j'ai fabriqué le résultat, maintenant vous le voyez, j'ai fabriqué le processus qui me permet d'aller jusqu'au résultat, et ça c'est la démonstration qui va me permettre de travailler sur les objets. C'est pas toujours le cas. En mathématiques, il y a pas mal d'exemples où on a par exemple des raisonnements par l'absurde, c'est-à-dire qu'on va supposer que pour démontrer qu'une propriété est vraie, on va supposer qu'elle est fausse, et puis en déroulant la suite logique des conséquences, on va tomber sur une contradiction. Donc si on tombe sur une contradiction, ça veut dire que ça va pas, donc c'était notre hypothèse de départ qui était fausse, donc la proposition n'est pas fausse, mais donc elle est juste. Ça c'est utiliser complètement le principe du tiers exclu, et c'est complètement contraire à la construction de l'objet. Hein, on a cette relation. Après, la troisième élément, c'est que les algorithmes peuvent être dans une perspective de constructivisme des objets mathématiques, de construction des objets mathématiques, les algorithmes peuvent être des preuves de propriétés mathématiques. C'est exactement le cas de l'exemple que j'ai donné sur les fractions égyptiennes. C'est une preuve. Ça démontre, à la fin, une fois que j'ai démontré que cet algorithme se terminait, eh bien j'ai démontré, se terminait de façon correcte, j'ai démontré que n'importe quelle fraction peut être décomposée en somme de fractions égyptiennes en proposant la façon dont il faut travailler pour obtenir ce résultat. Mais en même temps, de l'autre côté, il faut qu'aussi j'utilise des mathématiques pour prouver les algorithmes, c'est-à-dire pour démontrer que les algorithmes ont bien la correction que l'on attend. Donc on a ce double jeu, les algorithmes peuvent apporter des preuves pour les mathématiques, mais les algorithmes doivent être eux-mêmes prouvés pour pouvoir être utilisés en mathématiques. Alors je vais prendre un autre exemple, beaucoup plus simple, c'est l'exemple de la multiplication. Alors là, j'ai mis une illustration, un dessin qui est un dessin du XVIe siècle, je crois. Je suis pas complètement sûr, mais c'est l'époque en tout cas, où c'est la querelle des abbassistes et des algoristes. Alors les abbassistes étaient les tenants des opérations en utilisant des abacs, c'est-à-dire des bouliers, des façons de compter en utilisant des représentations matérielles des nombres. Et puis les algoristes étaient ceux qui étaient tenants de l'utilisation d'algorithmes pour effectuer des multiplications. Alors j'ai mis ici au tableau trois. On va sur cette diapositive. J'ai mis trois algorithmes. Alors celui de gauche, là vous allez sans trop de peine comprendre que ça fonctionne bien et qu'il n'y a pas besoin d'avoir une démonstration de la correction de cet algorithme. On a l'habitude, c'est celui qu'on utilise. En revanche, celui de droite, c'est moins évident que on ait bien fait la multiplication. Et si j'avais pas le résultat 1554 qui est le même que celui-là, peut-être il faudrait que je me pose d'autres questions pour arriver à comprendre pourquoi cet algorithme fonctionne bien. Et alors si vous regardez bien, les deux facteurs de la multiplication, 37 et 42 sont écrits en bas et en haut ici, et puis 3 fois 4 c'est 12, donc on a écrit 12, 7 fois 2 c'est 14, donc on a écrit 14, 4 fois 7 c'est 28, et puis 3 fois 2 c'est 6, donc toutes les multiplications ont été effectuées à un moment ou à un autre pour arriver à finalement cette somme qui est 1554. Puis je vais vous montrer l'autre algorithme. Alors c'est l'algorithme. Alors j'ai utilisé, donc c'est la même multiplication que tout à l'heure, hein, je sais plus ce que c'était, 1 2 3 4 42 que multiplie 37. Donc il y a des nombres. Vous voyez, il y a trois cordelettes ici, et puis il y en a sept ici, puis il y en a quatre horizontales, et puis il y en a deux qui sont ici. Donc en fait, j'ai bien représenté les nombres 37 et 42 comme ils étaient, et puis j'ai plus qu'à dérouler et simplement à compter les nœuds à chaque fois. Combien il y a de nœuds ? Ici, il y en a 12, ici, il y en a 6, ici, il y en a 28, ici, il y en a 14. Donc ça, pour le moment, vous voyez que je décris bien un processus, et puis j'ai regroupé le 6 et le 28 pour obtenir 34, et puis je fais la somme 12, 34, 14, et j'obtiens le résultat, le même résultat. Donc voilà un autre algorithme. Le fait de regarder trois algorithmes différents montre bien que ici, aussi bien pour l'un que pour l'autre, pour arriver à dire qu'effectivement le résultat c'est bien le produit de la multiplication de ces deux nombres, eh bien il faut arriver à donner des arguments, et ces arguments ne peuvent être que des arguments mathématiques. Et ici en l'occurrence, les arguments qui sont donnés, c'est simplement l'écriture décimale de position que l'on utilise et qui permettent de décaler les nombres les uns par rapport aux autres, c'est-à-dire compter les dizaines, compter les unités, compter les centaines, et pour obtenir le résultat escompté. Mais vous voyez que ce décalage, quand on regarde l'un ou l'autre des algorithmes, eh bien on s'aperçoit bien que si je regarde cet algorithme, ou si je regarde celui qui a été représenté par ces petits bâtonnets placés les uns par rapport aux autres, avant d'être sûr de la correction de mon algorithme, il faut bien que j'ai des arguments, et que ces arguments ne peuvent provenir que des mathématiques. Alors le troisième exemple, qui celui-là va essayer d'illustrer le dernier aspect de complexité des algorithmes, c'est un exemple c'est des exemples avec les nombres premiers. Alors, pourquoi on s'intéresse beaucoup aux nombres premiers? Tout simplement parce que, justement, il y a des algorithmes qui sont terriblement complexes et dont on ne sait pas, qu'on ne sait pas résoudre dans des temps raisonnables. Alors, je m'explique un tout petit peu mieux par rapport à ça. Si on veut décomposer un nombre en produit de deux nombres premiers, hein, on prend deux nombres premiers, on fait leur multiplication, on obtient un résultat. Ça, c'est un algorithme facile, c'est l'algorithme de multiplication que je vous ai montré. Il y a des algorithmes beaucoup plus sophistiqués qui permettent d'aller plus vite quand on prend des nombres un petit peu compliqués. Le problème, c'est quand on a le résultat de cette multiplication et qu'on veut retrouver les deux nombres de départ, eh bien, on n'a pas d'algorithme simple. On a des algorithmes, bien sûr, mais pas des algorithmes rapides, suffisamment rapides pour pouvoir être efficaces et pour pouvoir donner dans des temps raisonnables les résultats de ces deux facteurs du produit. Et la plupart des systèmes de cryptographie, en particulier sur le web, sont fondés sur cette propriété. Cette non-propriété, si j'ose dire, cette impossibilité que l'on a pour le moment d'arriver à décomposer un nombre grand en produit de deux nombres premiers. Alors, c'est quelque chose qui peut paraître un petit peu surprenant, mais c'est l'ensemble des systèmes de cryptographie qui sont utilisés sur le web utilisent majoritairement ce système de cryptographie, qui sont dus à des mathématiciens américains, Rivest et Adelman, et le deuxième c'est S, et j'ai perdu son nom, le système c'est RSA, donc Rivest, Shamir et Adelman, voilà, qui donne ce résultat. Alors c'est pour ça qu'on s'intéresse à ces nombres premiers. Alors évidemment, quand je parle de nombres premiers, ici j'ai mis les nombres premiers qui sont les petits nombres premiers, 2, 3, 5, 7, 11, etc., 29. Mais ce qui nous intéresse, c'est pas ces nombres-là, c'est la distribution de ces nombres dans l'ensemble des nombres. Et ça, c'est quelque chose qui mathématiquement est excessivement inconnu. Là, beaucoup de travaux sont faits. C'est la raison pour laquelle les travaux sur l'arithmétique sont actuellement excessivement... Il y a beaucoup de travaux sur l'arithmétique parce que c'est une des façons, un nombre c'est simplement un codage de n'importe quoi, donc on peut coder n'importe quoi avec un nombre, on peut coder des images, on peut coder des textes, on peut coder beaucoup de choses avec simplement des nombres, et donc connaître un peu la structure des nombres, connaître comment les nombres premiers sont distribués à l'intérieur de ces nombres, c'est un problème mathématique excessivement compliqué et actuel. Alors, donc, on connaît des algorithmes, parce que c'est très simple, il y a un algorithme évident, c'est de prendre le nombre, dans le problème que je vous ai donné de décomposition, de redécomposition d'un nombre, on prend le nombre, puis on essaye. Est-ce qu'il est divisible par 2? Non, bon, j'essaye avec 3. Est-ce qu'il est divisible par 3? Non, bon, j'essaye avec 4, etc. Et donc, comme le nombre est un nombre fini, au bout d'un nombre fini d'opérations, je vais arriver à trouver ce résultat. C'est donc, il y a un algorithme excessivement simple pour arriver à le faire. Sauf que cet algorithme, si on prend des nombres grands, eh ben, il est tellement lent qu'il est impossible à mettre en œuvre effectivement. Et c'est ça le problème de la complexité, travailler sur changer le type de complexité, c'est-à-dire le temps qu'on va utiliser. Alors, il y a deux types de complexité qu'on peut utiliser, c'est à la fois le temps qui est mis par la machine pour arriver à résoudre le problème qui est posé. Et puis le deuxième problème, c'est l'espace que la machine dont la machine a besoin pour arriver à résoudre le problème. Donc ces deux types de complexité, complexité en temps et complexité en espace, sont des complexités qui sont utilisées dans les problèmes de résolution de problèmes de complexité. Alors, voilà, donc ici j'ai mis un résultat d'un algorithme qui est une très jolie image. C'est l'ensemble c'est la distribution des nombres premiers. Alors là, j'ai fait tourner mon algorithme jusqu'à 25 000. C'est pas très très grand, mais c'est quand même suffisamment pour voir un petit peu les choses. C'est la distribution des nombres premiers dans l'ensemble des nombres. Et ça s'appelle cette représentation telle qu'elle est ici sur cette diapositive. Ça s'appelle la spirale d'Ulam, du nom du mathématicien Ulam, qui s'est amusé à écrire les nombres de la manière suivante. Il a mis 0, puis 1 dessous, 2, 3, 4, 5, 6, en spirale, comme ça. Il écrit les nombres en spirale tout autour du zéro. Et puis, il ne retient, et c'est ce que j'ai fait ici dans cet algorithme, je n'ai retenu que les nombres premiers. Tous les autres, je les ai laissés en blanc. Et donc, ça me permet de voir des structures un peu qui apparaissent. On voit apparaître un certain nombre de choses, des lignes diagonales qui apparaissent ici, où on semble avoir certains types d'alignement des nombres premiers qui apparaissent dans cette spirale. C'est super intéressant, c'est très joli, ça a une représentation très marquante, mais c'est aussi complètement c'est des mathématiques actuelles, c'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi les nombres sont distribués de cette manière-là, et c'est des recherches actuelles qui essaient de travailler sur cette structure des nombres premiers. Il y a une anecdote qui court chez les mathématiciens, qui disent qu'il y a deux sortes d'arithméticiens. Il y a ceux qui sont connus et très pauvres, et puis il y a ceux qui sont inconnus et très riches, parce qu'effectivement l'arithmétique est utilisée dans tous les problèmes de cryptographie, et donc si on a des résultats et qu'on le dit à très peu de monde, on peut vendre très cher ses idées, et si on publie comme tout bon universitaire, eh ben ça, voilà, pas plus que ça. Donc je passe de cette image des nombres premiers ici, qui est une, enfin moi j'aime bien cette représentation, j'aime bien parce que derrière il y a des mathématiques qui sont sous-jacentes, on voit bien tous les problèmes que ça pose, et puis en même temps je trouve que c'est des motifs qui sont assez extraordinaires, puisqu'il y a pas de régularité, il y a pas il y a un pavage, une sorte de pavage irrégulier du plan, donc ça m'intéresse de le regarder. Alors, algorithme et images, donc je reviens un petit peu à ces problèmes d'images. J'ai mis ici une courbe de Julia, donc c'est quelque chose qui ressemble qui a été travaillé par Julia au début du XXe siècle et qui ressemble pas mal à l'espace de Mandelbrot, enfin, dans la logique, dans la forme de réflexion, c'est-à-dire que c'est un système dynamique, et puis on essaie de regarder eh bien les endroits où ce système dynamique va s'en aller vers l'infini ou va rester captif. Et donc ce qui est dessiné suivant les couleurs, c'est la vitesse avec laquelle les nombres qui sont représentés dans le plan vont s'éloigner ou rester captifs à l'intérieur de ce de la dynamique de des nombres. Alors, on a ici des représentations, mais je pense que j'ai pas voulu faire un ensemble de vous montrer toutes les représentations qu'il peut y avoir, mais vous avez certainement déjà vu plein d'ensembles fractales, et c'est toujours intéressant de regarder à la fois la complexité et puis la beauté des résultats qu'on obtient. Mais il y a aussi derrière image une autre chose, d'autres aspects, qui sont par exemple l'image qu'on peut donner des mathématiques, les images qu'on peut donner des mathématiques, et à travers les nombres, à travers les algorithmes, il me semble qu'on peut apporter, et en particulier dans l'enseignement, apporter aux élèves une autre image des mathématiques, pas simplement cette image excessivement rigoureuse et déductive des mathématiques, mais aussi l'image où on va faire des expériences, on va essayer, on va regarder, et puis à partir de ces regards qu'on peut avoir, on peut essayer de trouver des résultats, puis ensuite de rentrer dans le jeu mathématique de la démonstration formelle qu'on a l'habitude de faire. Et puis le troisième aspect aussi, c'est les images qu'utilisent les mathématiciens. Donc là, j'ai mis quelques définitions qui me paraissent intéressantes pour ça. C'est les nombres parfaits, les nombres déficients, les nombres abondants, les nombres amicaux. Les nombres sociables, etc. Et alors, on a l'impression que c'est un jeu pour enfants. On va s'amuser avec ces nombres-là. Donc, un nombre parfait, c'est un nombre qui est la somme de ses diviseurs propres. En prenant l'exemple de 6, c'est le premier nombre parfait. 6, il peut se diviser par 1, bien sûr, par 2 et par 3. Et j'ai dit diviseur propre, c'est-à-dire que je ne dis pas le nombre 6. Hein. Donc je l'enlève, je l'élimine de l'ensemble. Et si je refais la somme 1 plus 2 plus 3, ben j'obtiens 6. D'accord ? Donc voilà, un nombre parfait, c'est un nombre qui est comme ça. Donc il y a 6, après le suivant c'est 28. Et puis après, il y a 728. Et puis après je me rappelle plus. Je vous les dirai. Il y a des travaux qui sont faits autour de ces nombres, parce que pourquoi c'est important ? Ben ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur les nombres premiers. Si on arrive à comprendre comment on fabrique. Oups, pardon, je suis parti. Oups. Me revoilà. Si on arrive à comprendre comment les nombres parfaits sont construits, où ils sont, quelle est la différence entre deux nombres, etc., toutes les questions élémentaires qu'on peut se poser, eh bien, on aura fait un grand pas sur la connaissance de la structure des nombres entiers, et en particulier de la position des nombres premiers, et donc on pourra devenir riche. Et donc en bas, j'ai mis un ensemble de nombres sociables. Alors, les nombres sociables, c'est une extension. Et ça, c'est quelque chose qui aussi est très très intéressant au niveau en mathématiques, c'est que quand on a une idée, eh ben la première chose qu'on fait avec cette idée, c'est d'essayer de l'étendre un petit peu plus loin. Et donc les nombres parfaits, on fait la somme des diviseurs, on retombe sur le nombre. Bon, d'accord. Et si on prend la somme des diviseurs, on va obtenir un autre nombre. À partir de cet autre nombre, on va recommencer et on arrive sur un algorithme. Je prends un nombre, je fais la somme de ses diviseurs. J'obtiens donc, comme sortie, un nouveau nombre. Je fais la somme de ces diviseurs. Voilà un algorithme très simple. Et la question qui se pose, c'est est-ce que je boucle ? Est-ce qu'à un moment donné, je vais retomber sur le nombre de départ ? Alors, si c'est un nombre parfait, bah oui, je boucle immédiatement. Et si ce sont des nombres sociables, eh bien je boucle au bout d'un certain nombre de temps. Par exemple ici, ça c'est la première suite dans l'ensemble des nombres. Donc les diviseurs de 12 496, si j'en fais la somme, j'obtiens 14 288. Si je fais la somme de ces diviseurs, j'obtiens le nombre suivant, etc., etc. Et quand j'arrive à 14 264, eh bien la somme de ces diviseurs, c'est de nouveau 12 496, et j'ai bouclé. Et j'ai réussi à obtenir un cycle à l'intérieur de ces nombres. Alors c'est des résultats qui peuvent paraître un peu comment dire, en dehors de toute espèce de réalité, mais c'est des résultats qui sont importants et qui peuvent être explorés en utilisant des nombres, en utilisant des algorithmes, et des algorithmes qui sont à la portée d'élèves si on veut se placer dans le cadre de l'enseignement des mathématiques, de l'algorithmique, etc. Voilà. L'autre aspect, c'est l'aspect inverse. L'aspect inverse, c'est de dire... j'ai une image de la réalité, par exemple une fougère, et puis j'aimerais trouver un algorithme qui représente cette fougère. Comment je vais pouvoir faire pour faire l'opération inverse de celle que j'ai faite, par exemple, sur les courbes de Julia, où j'ai une dynamique, et puis je fais tourner la dynamique, et puis j'arrive à un résultat. Là, j'ai un arbre, j'ai une fougère. Alors, j'ai pris l'exemple de la fougère, parce qu'elle est célèbre au niveau mathématique. C'est un mathématicien américain, Barnsley, qui est dans les années 70, à peu près, qui a mis au point cet algorithme, qui permet, à partir d'une forme, de retrouver... de retrouver un algorithme qui va permettre de créer cette forme. Et donc ici, par exemple, vous avez l'algorithme, je l'ai mis à côté, c'est certainement illisible, mais c'est pas long. C'est juste pour vous dire que l'algorithme qui permet de créer cette fougère, qui n'est pas une vraie fougère, mais qui ici est un point fixe d'un ensemble de fonctions itérées. En anglais, Iterated Function System, et le point fixe de cette IFS, Iterated Function System, c'est cette fougère. Alors, je ne vais pas le détailler ici sur cet exemple, je le détaille sur celui-là. C'est la même chose, hein, c'est exactement la même idée, sauf que cette fois-ci, c'est un exemple un petit peu plus mathématique et plus strict. Ça s'appelle le tapis de Sierpinski. Sierpinski, mathématicien polonais du XXe siècle. Et j'ai mis je m'arrête. J'ai mis l'algorithme, mais cette fois-ci en français, en pseudo-langage, alors que le premier était dans un langage compréhensible par la machine. Et donc, c'est très simple, on va prendre trois transformations. Une transformation du plan, une transformation mathématique, c'est quelque chose qui prend un objet dans le plan, et puis qui le transporte un petit peu plus loin, avec des règles qui sont connues. Par exemple, je le fais tourner, par exemple, je le pousse, par exemple, je le symétrise par rapport à une droite, voilà, des choses comme ça, ou éventuellement je réduis sa forme, hein, donc je prends un objet, puis je le réduis. Puis alors après, évidemment, je peux composer ça, c'est-à-dire que je prends un objet, je le réduis, je le fais tourner et je le translate. Et je vais obtenir ici une certaine transformation du plan. Ben ici, j'en ai trois transformations qui sont des transformations simples de réduction. Je pars de n'importe quelle forme, un ensemble compact, bon, un carré par exemple, hein, pour se mettre des idées, n'importe quel ensemble du plan, et puis je fais tourner cet algorithme, c'est-à-dire que j'applique sur cet objet du plan, j'applique mes transformations, j'obtiens donc un nouvel objet. De ce nouvel objet, j'applique les transformations, j'obtiens encore un nouvel objet, etc. Et je lance la dynamique de cet ensemble de transformations et j'obtiens ce résultat qui est ici. Et donc, c'est l'idée de Barnsley qui était absolument géniale, c'était de partir évidemment de la forme qu'il voulait atteindre pour trouver l'algorithme qui lui permettait de faire ça. Et c'est ce résultat qui est obtenu ici. Je regarde l'heure, oui. D'autres algorithmes ici que j'ai représentés, je vais aller un petit peu vite, c'est un ensemble. Alors c'est intéressant aussi parce que c'est un ensemble qui a été étudié au 19e siècle pour des propriétés mathématiques particulières. C'est-à-dire que à la fin, on voit très mal, mais on part ici d'une étoile à six branches. En fait, c'est deux triangles renversés, hein, vous voyez comme ça, deux triangles qui sont renversés. Et puis, sur chacun des côtés, on va refaire la même transformation. Et la transformation, en l'occurrence, c'est de partager en trois et de rajouter ce petit morceau. D'accord ? Donc, on fait ça sur chacun des côtés. Et puis, on continue. Toc, 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 et puis on continue. Alors, un certain nombre de fois, un nombre fini de fois si on veut faire une image, et un nombre infini de fois si on veut travailler en mathématiques, hein, et c'est là où on a les deux aspects. Et la courbe qu'on obtient, qui s'appelle le flocon de Von Korb, là encore du nom du mathématicien, c'est une courbe qui a des propriétés Von Korb, V-O-N-K-O-C-H. c'est qui a des propriétés assez intéressantes. Par exemple, la courbe de von Kort, tout entière, elle est infinie. Sa longueur est infinie. La courbe qui est obtenue par une limite au niveau mathématique, c'est-à-dire un algorithme qui aurait travaillé indéfiniment, lui, et qu'on peut imaginer en mathématiques, mais qu'on ne peut pas imaginer sur une machine. Donc cette courbe est de longueur infinie, et pourtant elle enserre une surface finie. Donc on arrive à quelque chose qui est un petit peu paradoxal, et c'était... entre autres pour ces propriétés-là que von Kort au XIXe siècle avait étudié ces représentations. Mais maintenant on s'en sert à d'autres fins, c'est qu'on se dit que la courbe qu'on obtient, si on y met un petit peu d'irrégularité, on va obtenir quelque chose qui va ressembler à une côte. Par exemple, la côte de Bretagne qui est bien découpée, eh bien on va pouvoir l'obtenir un petit peu de cette même manière, en cassant une droite de départ, en cassant une forme de départ, et puis après, ben on a qu'à se dire, on fait la même chose dans l'espace, et voilà par exemple une représentation qui est une représentation mathématique d'un paysage, un paysage qui est complètement imaginaire. Alors il suffit ensuite d'y rajouter un petit peu des ombres, des quelques nuages, pour avoir des paysages numériques complètement obtenus à partir d'algorithmes finalement très simples. Je rentre pas dans les détails. En gros, c'est des problèmes de dimension. Pour expliquer très vite, une ligne droite, ça a une dimension 1. Le plan, ça a la dimension 2. Si on essaye de prendre une forme, un petit peu comme le flocon de von Kort, qui est très très compliqué, on va dire que sa dimension, cette forme, elle remplit un petit peu plus le plan que simplement la droite. Et donc pour exprimer cette idée de remplissage du plan un peu plus que simplement une droite, on va lui donner une notion de dimension, et on va dire que la dimension de cette ligne que j'imagine ici, c'est une dimension qui est comprise entre 1 et 2. Et donc l'algorithme qui est utilisé ici, que j'avais utilisé pour le faire, c'était de partir de la dimension que je souhaitais avoir au paysage, c'est-à-dire c'était plus grand que 2 parce que sinon ça serait le désert, et plus petit que 3 parce que sinon ça serait l'espace tout entier. Et donc je prends une dimension par exemple de 2,5 ou de 2,4, et puis je lance un algorithme qui va me permettre de créer une courbe, une surface dont la dimension est 2,5. D'accord. Et c'est de cette manière-là qu'on obtient des représentations. Ce qui est très intéressant, c'est que là, il y a des complexités très faibles. Il y a des complexités très faibles parce que il y a des procédés mathématiques, et c'est là où on retrouve cette dualité et ce rapport entre les mathématiques et l'algorithmique, et les propriétés mathématiques qui permettent de faire des calculs très très rapidement, beaucoup plus rapidement que simplement si on implémentait les algorithmes habituels qu'on a pour faire des opérations. Voilà, donc algorithme et image. Alors, je vais conclure un peu sur ces deux, trois dernières diapos pour parler très rapidement de certains types d'algorithmes. Alors, je vous ai déjà parlé des algorithmes gloutons. Je vous ai pas parlé des algorithmes récursifs, mais bon, j'y viendrai pas aujourd'hui, mais peut-être une autre fois. Juste un type d'algorithme qui est beaucoup utilisé en maths, qui s'appelle diviser pour régner. Ça aussi une très jolie image. On va en particulier, il y a un algorithme très simple qui est un algorithme de tri qui est utilisé sur ce principe. Et le principe de l'algorithme, c'est de dire, si je ne sais pas faire pour un très grand ensemble, eh bien qu'à cela ne tienne, je coupe en deux. Je fais ça sur un ensemble plus petit. Et puis, comme cet ensemble est encore trop grand, ben je recoupe en deux, et puis indéfiniment. Et de cette manière-là, vous voyez que j'ai ici pris les lettres de l'alphabet de mon clavier, de mon ordinateur, AZERTY, IOP, etc. Et puis, je les ai triées par ordre alphabétique. Donc ça, c'est des algorithmes fondamentaux, hein. Les algorithmes de tri, c'est évidemment quelque chose qui est excessivement utile en informatique pour arriver à chercher des mots dans un dictionnaire, etc. Et si vous lisez par colonne maintenant, et les lettres qui sont rouges, on y voit, oui. Ouais. Donc, si vous lisez par colonne, ben, vous avez l'ordre alphabétique. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, etc. Hein? Donc, on va obtenir cet ordre alphabétique. Et comment on fait? Eh ben, au départ, c'est simple, on prend une lettre qui va être le pivot. On met avant elle toutes les lettres qui sont plus petites et après elle toutes les lettres qui sont plus grandes. Alors, les deux premiers, il faut laisser tomber parce que, bêtement, c'est AZ, donc la première et la dernière lettre de l'alphabet. Donc, ça c'était pas extraordinaire. Mais après, vous voyez, par exemple, ici, j'arrive à E. Donc, je mets avant toutes les lettres qui sont plus petites, DCB. Et puis, je mets derrière toutes les lettres qui sont plus grandes. Voilà. Puis je recommence. DCB, je prends. Ah ben j'ai pris C. Là, je me suis un peu trompé. J'aurais dû prendre D. Mais enfin bon, c'est pas grave. J'ai pris C. Je mets B avant et D après. Ok. Et ce que je vois, c'est que finalement, quand j'arrive à un nombre, à une lettre unique, eh ben elle est classée dans le bon ordre. D'accord. Puisque avant j'avais mis toutes les lettres petites. Alors ce tri, ça s'appelle un tri rapide, mais c'est un. C'est un algorithme qui est un algorithme probabiliste d'une certaine manière, c'est-à-dire que il peut arriver certains cas où il est très très mauvais, mais globalement dans l'ensemble des cas moyens, c'est le plus rapide. D'une façon moyenne, c'est le plus rapide, et d'une façon de la pire des façons, il est très mauvais. Voilà. Donc, mais c'est l'algorithme de tri qui est utilisé majoritairement pour faire des tris chaque fois que vous avez des choses qui doivent être triées, ben c'est l'algorithme de tri rapide, en anglais quick sort, et c'est celui-là qui est utilisé. Alors. Là, c'est plus, j'allais dire, j'arrive à la fin de mon exposé, et c'est plus mon domaine, c'est plus les algorithmes, et c'est plus à vous me dire des choses à partir de ça, c'est plus les algorithmes combinatoires, à partir d'un corpus fini de règles, de construction, on peut arriver à construire des phrases. Alors effectivement, il y a plein de choses qui peuvent être faites, qui sont très souvent reliées d'un point de vue mathématique à des parcours dans des graphes, c'est-à-dire qu'on va représenter mathématiquement les objets sur lesquels on veut travailler comme un certain nombre de nœuds et puis des relations qui existent entre ces nœuds. Et donc c'est les graphes, mais bon, là j'avais pas le temps de rentrer dans ce monde aussi absolument extraordinaire qui est tous les algorithmes qui sont autour de la description du parcours de graphes. De graphes ou d'arbres, un arbre étant un graphe particulier. Voilà, mais je vous remercie. Avec une dernière image, qui est une image d'une transformation conforme du logo de EducMat, donc l'équipe dans laquelle je travaille, et qui transforme ce logo à l'infini dans le plan qui est, au lieu d'être le plan que l'on a un peu l'habitude de connaître, qui est le plan de Poincaré, c'est-à-dire qui représente l'espace entier. Voilà, je vous remercie.